Il s'appelle William Martin. Il est mort un jour de brouillard à Londres en 1943. Et il avait 34 ans. Cet homme ne saura jamais à quel point il a été utile au monde, parce qu'il a probablement été plus utile au monde pendant sa mort que pendant sa vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire. En 1943, pendant la guerre mondiale, les Alliés avaient réussi à reprendre le contrôle de l'Afrique du Nord. Et l'étape suivante, logique, était de monter de l'Afrique du Nord, de traverser la Méditerranée et de reprendre peu à peu le contrôle de l'Europe qui était prise par les armées allemandes d'Hitler. Seulement, en prévoyant cette manœuvre des Alliés, les Allemands avaient rassemblé leurs troupes en Sicile et dans le sud de l'Italie. Ils rendaient donc de cette façon difficile l'approche de ces deux régions. Les Alliés ont donc mis en place une stratégie particulière pour rendre l'attaque de la Sicile et du sud de l'Italie possible. Ils avaient besoin de William Martin. En fait, il s'appelle Glendire Michael. Sûrement que je prononce mal son nom pour les Gallois, parce que c'est un Gallois d'origine. Il est mort à Londres et on avait besoin de son corps. Les services secrets anglais ont fait les arrangements avec sa famille et ont récupéré le corps de cet homme de 34 ans. Ils l'ont mis dans la glace en attendant d'avoir besoin de ses services. Et puis, on a habillé cet homme comme s'il était pilote d'avion. On a fait des annonces dans les journaux en disant que William Martin avait été perdu, disparu dans les combats. On a demandé à une jeune fille de jouer le rôle de sa fiancée et on a fait à Londres une cérémonie à la mémoire de ce soldat mort au front. Sa fiancée, entre guillemets, était là, en pleurs. Et puis, le 19 avril 1943, un sous-marin a refait surface pendant la nuit au large des côtes d'Espagne, en Méditerranée. Et on a remis à la mer William Martin, c'est ainsi qu'on l'a appelé. On a mis aussi à la mer un canot et une rame, pas loin de là où le corps flottait entre deux eaux. On avait pris soin avant de mettre dans ses poches tout ce qu'un pilote peut avoir dans ses poches, y compris une lettre, d'une dernière lettre de sa fiancée, y compris des documents secrets qui indiquaient que les prochaines attaques des Alliés allaient se faire en Grèce. Et on a remis tout cela à la mer. Le sous-marin a disparu et on a attendu. Le cadavre a flotté entre deux eaux, le canot était un peu plus loin, la rame ailleurs. Et finalement, les troupes allemandes, qui étaient aussi stationnées en Espagne, pays neutre, ont localisé ce corps qui flottait. Il a été repêché. Il a été remis aux mains des troupes allemandes, qui ont trouvé ce qu'il avait sur lui, et en particulier les documents secrets disant que les attaques prochaines des Alliés auraient lieu en Grèce. Le 12 mai, un mouvement de troupes extraordinaire a été mis en place pour déplacer les armées qui étaient en Sicile et dans le sud de l'Italie pour les amener en Grèce. Ce mouvement était prévu par les armées allemandes pour faire face à l'attaque des Alliés qui, selon les indications qu'ils avaient maintenant, viserait la Grèce. Ainsi, à partir du mois de mai, les troupes ont été déplacées de l'Italie vers la Grèce. Et le 19 juillet, les Alliés ont attaqué la Sicile. En un mois, l'île était reconquise, le sud de l'Italie était pris, et ils reprenaient le contrôle du sud de l'Europe. Autrement dit, William Martin, qui n'a jamais existé, qui s'appelle en fait Glendire Michael, a été extrêmement utile dans la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il a aidé à envoyer les armées se battre là où la guerre n'avait pas lieu. Et en réalité, notre vie chrétienne ressemble à bien des égards à cet événement-là. Permettez évidemment que je prenne cet événement de la Deuxième Guerre comme une parabole. Combien de fois en tant que chrétiens, nous battons-nous, combien de fois sommes-nous en lutte, là où en réalité, la vraie guerre n'a pas lieu pour nous. La parole de Dieu nous invite à mener ce combat. Et je vous propose de regarder ce texte écrit par l'apôtre Paul dans la première épître à Timothée au chapitre 6. Ce texte qui présente la vie chrétienne véritablement comme une lutte. 1 Timothée chapitre 6, au verset 12, il est écrit ceci. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Mais il reste à définir ce qu'est ce combat de la foi. Et souvent l'idée du combat nous a mal orientés dans notre esprit. Parce que nous sommes partis au combat, parce que nous sommes partis pour combattre le mal, le péché, les mauvaises habitudes, ce que nous avons identifié en nous comme n'étant pas selon la volonté de Dieu. Et nous nous sommes encouragés en citant un certain nombre de textes. Par exemple, « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». C'est un bel encouragement, n'est-ce pas? Mais ce texte n'est pas cité tel qu'il est écrit. Parce que ce texte qui se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 4 dit en réalité « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Nous avons besoin de lire le texte dans sa totalité pour comprendre ce qu'il veut dire. Comment pouvons-nous résister au diable? Le texte le dit « Soumettez-vous donc à Dieu. » Mais nous le traduisons dans notre langage, à nous, comme étant le devoir que nous avons de lutter, de nous engager nous-mêmes avec force et énergie dans la lutte de ce que nous savons être mal dans notre existence. Nous avons d'ailleurs dans l'Épître aux Éphésiens la description de l'armure du chrétien. Vous connaissez cette description, regardons-la ensemble si vous voulez bien. Éphésiens, chapitre 6. L'apôtre Paul écrit à partir du verset 10 « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Puis vient la liste de ces sept armes du chrétien, que sont la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut, la parole de Dieu, la prière. Mais vous remarquez, ce sont encore une fois des armes spirituelles. Et le texte commence en disant « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Par sa force toute puissante. » Nous oublions facilement qu'il n'y a que Dieu qui puisse tenir tête au diable. En fait, nous partons à la guerre là où la guerre n'a pas lieu pour nous. Et combien d'entre nous sont partis dans cette lutte contre nos mauvaises habitudes, nos mauvaises pensées, contre tout ce que nous savons devoir éliminer dans notre existence, pour réaliser qu'en réalité, c'est chaque fois la défaite. Alors que devons-nous faire? Combattre le péché finalement, nous-mêmes directement, c'est en réalité aller au combat là où nous ne sommes pas appelés à y aller. Et nous pouvons dans une certaine mesure, extérieurement, gagner certaines victoires, avoir finalement bonne allure. C'est effectivement ce qui nous empêche d'avoir des contraventions, des tickets. C'est ce qui nous empêche aussi d'être en prison, parce qu'on s'est bien comporté. C'est ce qui nous empêche d'avoir des procès, parce qu'on a fait les choses comme il fallait les faire, pour ne pas avoir d'ennuis. Ça nous permet d'avoir une bonne réputation. Mais ce ne sont jamais des victoires, parce que notre cœur n'est pas changé. Et c'est par là qu'il faut commencer. Dans le livre Parabole, je trouve cette paragraphe. Un simple changement extérieur n'est pas suffisant pour nous mettre en harmonie avec Dieu. Beaucoup cherchent à se réformer en corrigeant telle ou telle mauvaise habitude. Ils espèrent ainsi devenir chrétiens, mais ils commencent au mauvais endroit. C'est avec le cœur qu'il faut commencer. L'accomplissement de nos devoirs, de ce que nous considérons être nos devoirs religieux et civils et les autres, ne change rien à notre cœur. En réalité, c'est le cœur qu'il faut changer. Notre réflexe humain est de mettre toute notre énergie, toute notre puissance, toute notre volonté à combattre ce que nous savons être contre Dieu en nous. Et nous sommes invités d'ailleurs à être conservés purs et irrépréhensibles pour le jour de la venue de Christ. Donc nous nous mettons au travail avec énergie et avec défaite parce que nous partons tout seuls. D'ailleurs, il ne peut pas en être autrement parce que si en réalité, en mettant tous nos efforts, nous arrivions à être vainqueurs dans cette lutte contre le mal, il y aurait un énorme problème. C'est que les plus forts, les plus volontaires, les plus courageux, les plus déterminés seraient ceux qui seraient sauvés. Et les pauvres comme moi qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de volonté, qui n'ont pas de persistance, seraient tous perdus. Et puis, si en faisant un peu plus d'efforts encore, j'arrivais à avoir la victoire, la vraie, celle que le Seigneur demande, est-ce que j'aurais encore besoin d'un sauveur après tout? Je pourrais me débrouiller tout seul. Finalement, sans m'en rendre compte, instinctivement, je remets en place dans ma vie ce système du salut par les œuvres en essayant d'acquérir moi-même la victoire sur ce qui n'est pas bon en moi. C'est notre réflexe. Alors, réflexion faite, on se rend compte qu'on est parti dans la mauvaise voie. Et on dit, ok, d'accord, j'accepte, je comprends, j'accepte d'être sauvé par la foi. Ok, je le comprends. Mais dans la pratique, ce n'est pas toujours aussi simple. Arthur Spalding, dans le livre « The Captain of the Host », écrit ceci au siècle passé. « Cette conviction est subtilement implantée dans l'esprit de la plupart des chrétiens, selon laquelle nous devons lutter pour être bons, pour faire le bien, et lorsque nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, Christ vient à notre secours et nous aide alors à faire le reste. Beaucoup de gens aujourd'hui croient dans ce credo de salut partiellement par les œuvres et partiellement par la force auxiliaire de Dieu. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai, nous comprenons que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Nous comprenons que nous avons besoin de sa force toute puissante, comme disait le texte. Mais dans la pratique, nous avons toujours une solution intermédiaire. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire, tu fais tout ce que tu peux, et quand tu es arrivé au bout de tes limites, le Seigneur va faire le miracle supplémentaire pour faire ce que tu n'as pas pu faire. Et finalement, nous nous retrouvons dans une solution intermédiaire qui nous remet dans le problème du salut par les œuvres, où je fais tout ce que je peux, puis le Seigneur fera le reste. Mais le tout ce que je peux va m'amener à quoi? Le tout ce que je peux va m'amener nulle part. La Bible nous parle aussi de mettre tous nos efforts. Le combat de la foi n'est pas présenté dans les Écritures comme une croisière paisible où tout va bien, une croisière où, si vous acceptez Jésus, vous avez la solution à tous vos problèmes. Relisez les Évangiles, relisez les Actes des Apôtres. Tous ceux qui ont été les plus attachés à Dieu sont ceux qui ont été persécutés pour leur foi, qui ont rencontré les plus de difficultés, d'adversités. Alors le combat de la foi, où donc devons-nous aller au combat? Où donc devons-nous concentrer nos efforts? Non pas qu'il ne faut rien faire, mais la question est finalement d'aller à la guerre là où le combat a vraiment lieu. Dans le 9e livre des témoignages écrit par Ellen White au début du siècle passé, se trouve ce paragraphe et qui est tellement vrai. Écoutez ceci. Chacun de nous aura une lutte serrée à mener pour vaincre le péché dans son cœur. C'est une tâche souvent pénible et décourageante, parce qu'en voyant nos défauts de caractère, nous y gardons les yeux fixés, alors que nous devons regarder à Jésus et nous revêtir de sa robe de justice. Tous ceux qui rentreront par les portes de perles de la cité de Dieu seront des vainqueurs, et leur plus grande conquête sera la conquête du moi. Ce combat de la foi n'est pas un combat facile. Il nous est proposé ici de recevoir cette robe de la justice du Christ. Mais comment recevons-nous cette robe? Vous connaissez la parabole que Jésus a racontée, où cette robe nous est donnée. Il faut la demander pour qu'elle nous soit donnée. Elle n'est pas à arracher, elle n'est pas à payer, elle n'est pas à gagner, elle est à recevoir. Ainsi, il est question de savoir où nous devons tourner nos efforts. Et instinctivement, nous les tournons contre l'ennemi, et c'est la raison pour laquelle nous sommes en faillite constamment, parce que nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi. Souvenons-nous qu'il n'y a que Dieu qui peut tenir tête au diable. La solution, par conséquent, va consister à aller chercher cette force toute puissante qui est en Dieu, à développer, autrement dit, avec lui, à reconstruire, à établir, à intensifier cette relation par laquelle lui va pouvoir accomplir pour nous ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Ce contact, vous allez dire, mais finalement, c'est un peu trop simple. Si la vie chrétienne, c'est ça, mais alors, c'est facile. Ceux qui pensent cela, ce sont ceux qui ne s'y sont pas engagés entièrement. Les Écritures nous donnent un exemple. J'aimerais le prendre dans l'Ancien Testament. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20, se trouve là un événement qui nous est rapporté de l'histoire d'Israël et que je trouve extrêmement intéressant parce qu'il est là, en plein dans l'Ancien Testament, une image parfaite de ce qu'est le combat de la foi, c'est-à-dire le programme que nous trouvons dans le Nouveau Testament par lequel le Seigneur nous invite à être vainqueurs par la foi en Jésus. Vous connaissez cette histoire dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20. Il nous est raconté que le roi Josaphat reçoit la nouvelle selon laquelle les Moabites, les Ammonites, les Maonites se sont ligués contre lui. Tous ensemble, ils représentent une armée imposante. Josaphat panique parce que cette armée est très grande. Ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'il peut lui-même mobiliser comme armée. Et la réaction de Josaphat est intéressante. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20, il est dit ceci au verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Puis vient cette prière que le roi va adresser à Dieu de la part du peuple, dans laquelle il va rappeler la puissance de Dieu qu'il a utilisée pour délivrer son peuple dans le passé. Et il va dire, Seigneur, si tu l'as fait dans le passé, pourquoi ne vas-tu pas le faire encore aujourd'hui? Parce que nous sommes totalement impuissants. Regardez par exemple au verset 12 comment il termine sa prière. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Josaphat va présenter cette prière à Dieu, dans laquelle il reconnaît « nous sommes sans force ». Mes amis, nous vivons une époque où, que ce soit d'un côté de la frontière ou de l'autre, il y a des élections. Est-ce que vous entendez, dans ces campagnes électorales, les candidats dire « écoutez, nous sommes sans force, nous n'avons pas de solution au problème, mais nous allons nous tourner vers Dieu, il va nous en donner ». Vous entendez ce langage? Paix et sûreté, tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas, votez pour moi, tout ira bien. Est-ce que vous imaginez un instant cette mesure d'humilité que Josaphat montre ici en disant devant tout le peuple, « Seigneur, nous sommes sans force ». C'est quoi pour un roi, ça? Il n'ose même pas aller au combat. s'il est courageux qu'il y aille, qu'il emmène ses hommes, Dieu est avec nous. Seigneur, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Et Dieu va répondre. Dieu va répondre par l'intermédiaire de Jacaziel, un prophète. Et Jacaziel va apporter de la part de Dieu un message extraordinaire. Au verset 15, il dit ceci. « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et un peu plus loin, au verset 17, il répète cette idée, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. » Il nous est dit au verset 18, « Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. » Le lendemain matin, ils vont organiser le départ pour aller au champ de bataille. Dieu leur a dit, « Vous n'aurez pas à combattre, mais soyez là. » Josaphat va mettre en premier lieu la chorale. Alors vous imaginez les sopranos là-devant, en première ligne pour aller à la guerre, et puis les autres, et puis le reste du peuple. Voilà comment on part à la guerre. Et on chante. Et le texte nous dit qu'ils vont partir en chantant le psaume 136. Le Seigneur leur a dit, vous n'aurez pas à combattre, c'est moi qui vais combattre, mais soyez là, parce que je veux que vous soyez témoins de la délivrance que je veux vous accorder. D'ailleurs, cette méthode de Dieu est en réalité la clé, si l'on veut comprendre, les fameuses guerres d'Israël dont il est question dans l'Ancien Testament. Si vous regardez avec moi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 1er, c'était déjà la méthode que Dieu proposait à son peuple au début. Deutéronome, chapitre 1er, il est écrit ceci. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Ainsi, lorsque Josaphat arrive avec la chorale et tout son peuple sur le champ de bataille, Dieu a déjà répondu, Dieu a déjà réalisé sa promesse. Le texte nous dit que ces armées se sont tournées l'une contre l'autre, se sont exterminées mutuellement, et le peuple d'Israël n'arrive plus que pour recueillir le butin. En réalité, la guerre n'a pas été gagnée sur le champ de bataille, la guerre a été gagnée dans le temple lorsque Josaphat et tout son peuple demandaient à Dieu, « Seigneur, interviens, prends toi-même en main cette lutte. » La bataille a eu lieu là, elle n'a pas eu lieu sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, c'est Dieu qui a pris les choses en main. La victoire a été remportée avant. Ainsi, le Seigneur nous propose, comme il le proposait à son peuple d'autrefois, le combat de la foi. C'est-à-dire de développer avec lui ce lien suffisamment fort pour qu'il puisse accomplir pour nous ce que nous ne pouvons faire pour nous-mêmes. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, il nous est dit que ceux qui vivent à la fin des temps ont plusieurs caractéristiques. Il nous est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais la foi de Jésus, c'est aussi la foi qu'avait Jésus. Quelle foi Jésus avait-il? Il l'explique lui-même dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Et nous allons retrouver là, curieusement, pour Jésus, le même programme que nous. Évangile selon Jean, chapitre 14, nous lirons le verset 10. Jésus s'adresse ici à Philippe et lui dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » La foi de Jésus, c'est cette foi qu'avait Jésus, par laquelle, dans son lien intime avec Dieu, il lui donnait la possibilité et l'ouverture dans sa vie d'accomplir son plan pour lui. Autrement dit, Jésus s'est retrouvé dans la même situation que nous. Les plus grandes tentations de Jésus n'étaient pas de commettre ses péchés. Le péché lui était odieux. Mais la plus grande tentation de Jésus était de faire lui-même ce qu'il pensait être sa mission, son ministère dans le monde. Et Jésus dit, mais les œuvres que je fais, en fait, c'est le Père qui les fait par moi. Les paroles que je vous donne, c'est celles qu'il m'inspire. Les victoires qu'il gagne, ce sont celles que le Père remportait pour lui par la force toute puissante qu'il lui donnait. On est là de nouveau confronté à ce programme que le Christ nous propose, qui est celui du salut, par la foi. Mais alors, qu'est-ce que cette justification par la foi, pour reprendre ce terme compliqué que nous employons parfois ? Ellen White, au siècle passé, écrivait ceci, une définition tout à fait juste. Qu'est-ce que la justification par la foi ? C'est l'œuvre de Dieu qui conduit la gloire de l'homme dans la poussière et qui fait pour lui ce qu'il n'a pas en son pouvoir d'accomplir pour lui-même. Quand l'homme voit qu'il n'est rien, c'est alors qu'il est prêt à recevoir le vêtement de la justice de Christ. Notre gloire dans la poussière avant que le Seigneur puisse agir. Nous ne pouvons pas partir au combat, seul Dieu peut tenir tête au diable. En réalité, ce que nous faisons souvent, c'est aller à la guerre là où c'est la place de Dieu et demander à Dieu de faire notre part. Il convient maintenant de remettre les choses à leur place, de prendre notre part et de laisser le Seigneur à la sienne. Car en fait, le Tout-Puissant, c'est lui et pas nous. Concrètement alors, comment puis-je faire pour aller à la guerre là où elle a vraiment lieu pour moi ? La formule est fort simple. Elle est peut-être plus difficile à appliquer. Et pour ceux qui ont essayé de l'appliquer, vous vous rendez compte que cette formule va demander de notre part tous nos efforts. Prendre du temps au début de chaque journée pour renouer contact avec Jésus par l'étude de sa parole et par la prière. Le véritable combat va être de garder ce lien avec le Christ. Chaque jour et toujours, pour que par ce lien, il ait les moyens d'accomplir en nous ce que nous ne pouvons pas accomplir. Dans le livre « Vers Jésus » que vous connaissez bien, se trouve en réalité l'explication concrète de ce que ça veut dire. Où donc le combat de la foi se mène-t-il pour nous ? Dans le livre « Vers Jésus » à la page 75, il est écrit « Consacrez-vous à Dieu dès le matin. Que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. » C'est là une affaire qui concerne chaque jour. Soumettez-lui tous vos plans. Quitte à les délaisser ou à les exécuter selon qu'il vous l'indiquera, si vous abandonnez ainsi votre vie entre les mains du Père, elle sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus. C'est là que nous sommes invités à aller sur le champ de bataille. Et ceux qui veulent s'engager dans ce combat de la foi se rendront compte à quel point ils devront lutter contre eux-mêmes pour rester sur ce terrain de la foi et garder ce contact avec Dieu par lequel la victoire est possible. Ce contact, il s'établit chaque jour, comme le disait notre texte. Et vous vous rendrez compte, alors que vous allez vous exercer à ce combat de la foi, à quel point le diable va mettre des bâtons dans les roues. C'est précisément parce qu'il sait que le jour où vous avez découvert ce secret, il a perdu son emprise sur vous. C'est sur ce chemin-là que le Seigneur nous invite ce matin, que je vous invite à vous y lancer avec confiance jusqu'à ce qu'il revienne. Amen.